Qu'est-ce que vous faisiez ?
Ben, j'étais maçon. J'étais 30 ans à mon compte, avec deux ouvriers. Et avant, j'étais avec mon père. Ouais. J'avais 15 ans. Je ne sais plus, j'avais 15 ans, je suis 33. Alors, 33, 43, 48. Eh bien, j'étais à travailler à Trabouic. C'est quoi là ? Parce qu'à Trabouic, il y avait deux fermiers et les propriétaires étaient de chez nous, de Cabriac. Alors, je travaillais pour les deux. Et là, ce que je faisais à l'époque, on faisait un poulailler tout en pierre, intérieur comme extérieur, et puis maçonné avec du sable et puis de la chaux grasse, on appelait ça.
Ah oui. Et vous êtes né à la Québriac ?
Non, je suis né à la Chapelle. Mon père est né à Québriac, mon grand-père aussi. Parce que mon père était maçon aussi et mon grand-père. Et j'ai connu mon grand-père aussi. J'ai connu travailler un peu, donner des coups de main à mon père chez nous, où j'habite là. Et à l'époque, on n'avait pas beaucoup, mais il avait fêté leur noce d'or. Ouais. Et j'avais 14 ans. J'avais 14 ans quand ils ont fait leur noce d'or. Et puis donc, un an après, je me trouvais à travailler à Trabouic. Là, on a appris qu'il était décédé.
Vous l'aimiez bien, votre grand-père ? Vous l'aimiez bien, votre grand-père ?
Oui, oui, ma grand-mère surtout, parce que je voyais plus souvent ma grand-mère, parce qu'il habitait à Saint-Céliac. Alors, le jeudi, comme je n'avais pas d'école, j'allais à pied les voir. Et puis, elle avait deux ou trois vaches, et elle était comme moi, elle était sourde. Et puis, elle filait au rouet la laine de brebis. Filet au rouet.
C'est fou parce qu'on a perdu, enfin on a pas connu ça nous.
Ah ben non.
Donc elle avait des brebis et elle.
Non, elle n'avait pas de brebis. C'est les gens qui y amenaient de la laine. Ils amenaient la laine et puis filet. Bon, elle avait trois vaches mais pas de brebis.
Et elle en faisait quoi de cette laine ? Elle faisait quoi avec la laine ?
Oh madame et comment. Il en tricotait après, il faisait des chaussettes, des pulls, des. Ah oui. Ah oui. Allez, sur les vieilles choses. Depuis que l'ange de. Oh, je dirais 7 ans. Avant 7 ans, je ne me rappelle pas de grand chose, mais à partir de 7 ans. Hein. Je me souviens de beaucoup de choses. Là, c'est-à-dire, c'est pour ma vie, ma jeunesse, il y a beaucoup à dire. Dans 2 heures, on va encore y être. Et je peux parler de sur ma vie, sur mon travail, parce que j'en ai écrit plusieurs pages de ma jeunesse.
Alors, c'était comment d'être jeune à votre époque ?
Ben, j'ai tombé à la mauvaise époque parce que, je suis né en le 25 janvier 33. Et quand je suis né, j'avais le don de passer le venin. Pensez-vous, vous connaissez ça, non ? Non ?
De passer le venin ?
Oui, alors, il me dire ça, ben, pas aussi né, bien sûr. Mais je l'ai appris, j'avais 7-8 ans, que j'avais le don de penser le venin, mais pour cela, il fallait être né un 25 janvier et baptiser le même jour, on m'a dit. Par contre, j'en ai pensé beaucoup. Surtout des bêtes, des personnes, des humains, j'ai juste pensé deux personnes qui avaient été mordues au pied par des vipères. Et autrement, les autres, c'était des chiens au moment de. Surtout à l'ouverture de la chasse, ils s'amenaient avec une boule sous la gorge, là, ils ne savaient plus dire long. Ça a duré des années, mais maintenant, comme il y a de moins en moins de vipères, Alors j'ai plus de travail, de l'affaire, au moins.
Oui. Et comment vous avez appris que vous aviez ce don? Quelqu'un vous l'a dit? Quelqu'un vous a dit que vous aviez ce don ou vous en êtes rendu compte tout seul?
Non, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Mais oui, quelqu'un me l'a dit.
Et pourquoi vous avez dit que vous étiez né à la mauvaise époque?
Ben parce que quand en 39, on a eu la guerre, et puis en 39, j'avais 6 ans, 6 ans et demi, et mon père est parti à la guerre, et il a été prisonnier en 40, et puis ma mère avait 2 vaches, elle est tombée malade et crochait le sang à pleine bouche, pas de médicaments, pas de docteur, rien du tout. Et bien, c'est moi, alors à partir de 9 ans, qui était obligé de traire les vaches et barater pour avoir le beurre et tout, tout ce qu'il y avait à faire. Parce que ma mère, à l'époque, elle ne pouvait même pas se couper du pain. C'est moi qui étais obligé de le couper.
Vous aviez des frères et sœurs?
J'ai une sœur, mais elle est 7 ans plus jeune que moi. Moi, je suis né le 25 janvier, et elle qui est née le 12 octobre 39. Et justement, mon père, il est parti le 3 septembre 39, et il a eu une permission pour venir voir la naissance de sa fille, ma soeur. Mais là, je me rappelle de sa naissance comme si ça venait de se produire.
Mais... Alors, comment ça se passait? Comment ça se passait à l'époque, les naissances?
Ah, madame, il a couché à la maison. Hein. Ben oui, il y avait une sage-femme qui appelait ça, mademoiselle Nobilé, qui était à Tintignac. Et ben, comment... Elle se déplaçait, forcément. Oui. Mais pour ma frangine, je ne sais pas exactement. Tandis que pour moi, ils m'ont toujours dit que le 25 janvier, il glaçait dur, et puis ils furent avec une voiture et un cheval, leur cherchaient vers 2h du matin, madame Nobilé. Et comme il glaçait, comme éclairage, il avait une lampe à carbure, et puis que ça marchait avec de l'eau, et bien l'eau glacée, il n'y a plus de lumière. Alors, ils m'ont dit ça. Mais pour ma frangine, quand elle est née, je l'ai entendue vers 3h du matin, j'ai entendu pleurer, et comme je n'étais pas au courant de rien, je ne connaissais rien, j'étais dans la cuisine, et puis mes parents avaient quand même une chambre. J'ai entendu crier, oh, il a encore dû en boire un chat dans la maison.
Vous avez vu votre petite sœur naître?
Oui. Bon, je faisais pas trop attention à ça. Puis le problème, c'est que les Allemands sont arrivés en 39. C'est en 40. Au mois de juin 40 qu'ils sont arrivés là. Madame, pendant 4 ans, on était sous l'occupation. Ils ramassaient tout. On n'avait plus rien à manger. Nous, en campagne, on faisait encore des patates, du blé. On réussissait à se nourrir comme ça, quoi. Et puis, mais malgré son malheur, mon père, il a porté 5 ans prisonnier. Il a fait 2 ans et demi. Il a été rapatrié comme malade, sans pension, parce qu'il avait... Il avait fait de l'otite mastoïdienne et puis il avait du pus dans l'oreille et puis il avait tiré au flanc pour arriver à s'en sortir. Et il est revenu de prisonnier en 42, au mois de juillet 42.
Vous vous souvenez du jour où il est revenu? Est-ce que vous vous souvenez du jour où il est revenu,
oui,
votre père?
Oui, parce que d'Allemagne, il fallait qu'il venait se faire démobiliser à Lyon. À Lyon, c'était une zone libre, c'est là qu'il est démobilisé. Mais il est resté à Lyon parce qu'il en démobilisait 2 par jour. Il ne pouvait pas faire plus parce que s'il avait tout démobilisé, il aurait tout mettre au chômage. Alors c'est pour ça qu'il est resté un mois à Lyon. Et pendant c'était le mois de juin-juillet, parce qu'il faisait le foin là-bas. Alors il a donné un coup de main à faire le foin. On a vu une photo, il était à faire le foin sur la charrette, avec une charrette et un cheval. J'ai vu la photo.
Et vous pouvez nous raconter le jour où il est rentré à... ici ? Vous pouvez nous raconter le jour où votre père est rentré à la maison ?
Mais c'est-à-dire que quand on savait qu'on fut, ma mère et moi, on fut au devant de lui. Mais on fut pas mal loin, on va jusqu'au grand bord. Là. Et puis c'est là que...
Il était en voiture ? À pied ?
À pied, hein.
Il était tout seul ?
Oui. Oui. Mais là, m'a pris, il a tout tranquille, il a pris le travail, la maçonnerie, en 43. Mais en 43, j'avais 10 ans. J'étais encore trop jeune pour... Enfin, ça l'a bien soulagé quand même, parce que il pouvait travailler un peu à la ferme, tout en faisant de la maçonnerie. Parce qu'en travaux de maçonnerie, à l'époque, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de ciment. Pendant l'occupation, il y avait des bricoles.
Et comment c'était Québriac quand vous étiez jeune ?
Oh ben, Québriac, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. La maison, là, elle existait. Tout le bourg, là, il existait. Oui. Comme il est. Il y a où ça s'est construit, c'est comme partout dans l'élargissement.
Est-ce que vous avez des souvenirs de jeunesse que vous avez envie de partager ? Est-ce que vous avez des souvenirs encore de jeunesse que vous avez envie de partager ?
Souvenirs de jeunesse. J'en ai certainement, mais je les ai pas en tête pour l'instant. Parce que bon, ben, suite à l'invasion allemande, là, on a été libéré en 44. Et puis après, ben, ça a été facile, mais en 45, tout ça, on n'avait encore rien. Moi, on n'avait pas de vélo. Moi, j'avais au moins 16 ans quand j'ai eu un vélo. Hein? Mon père n'avait qu'un qu'il avait récupéré, mais les Allemands avaient fait la rampe, ils les récupéraient tous. Quand il y a eu le débarquement de Normandie, là, ils réquisitionnaient tous les vélos.
Hein. Ils sont venus ici récupérer les vélos ?
Dans tous les bleds. Ah oui. Ah oui.
Ah. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec les vélos ?
Ben, c'était pour monter en Normandie, au front, là. Parce qu'il n'y avait plus rien. C'était complètement à plat. Un beau jour, c'était un dimanche, il y avait un convoi allemand avec des charrettes et des chevaux. Ils étaient stationnés au logis, au château du logis, dans la chapelle. Et ce dimanche-là, toute la matinée, on entendit un avion ronronner. On entendit sans arrêt, tout en ron. On ne voyait point être dedans. Hein. Oh, peut-être 2 heures après qu'il fut parti, il y avait des Canadiens, 4 avions de chasse, ils mitraillirent le convoi sur au moins 5 kilomètres dedans. Le dimanche l'après-midi, il y avait 22 chevaux tués sur la route. Et tout ça te boyait. Je fus voir le lundi matin en allant à l'école, moi. Et je fus voir aussi, ils étaient deux par deux, attelés sur le côtier, avec des charrettes à 4 roues, là. Et tout ça te... Non, par contre, on ne vit pas de mort. Si, je ne sais pas s'il y en avait ou quoi, mais s'il y en avait, ils les avaient enlevés dans la nuit. Là. On vit juste les chevaux, puis les charrettes.
Ça doit être... difficile quand on est un enfant de vivre ça.
Très difficile. Ouais. Mais bon, nous, j'allais à l'école à la chapelle, ben, il avait pris nos classes. Ben, mon école, là, on allait à l'école dans le bourg, dans une petite ferme, dans un grenier. Ah oui. Oui. Parce que nos classes étaient prises, il avait 2 lits superposés et puis il était là-dedans, hein. Il y avait une trentaine. Oui.
Est-ce qu'il y a eu d'autres histoires pendant l'occupation allemande ici?
Bon, nous, à la chapelle, justement, quand ils ont fait la ROF pour les vélos, là, il y en a un qui n'a pas voulu donner son vélo, il s'est barré, mais ils ont fait un coup de fusil, ils l'ont tué. Dans, juste dans le bourg. Hein.
Et est-ce que vous vous souvenez comment vous imaginiez la vie que vous auriez quand vous serez quand vous seriez grand?
Ouais, quand vous étiez enfant.
Comment
vous imaginiez la vie? Comment vous
quand vous étiez jeune?
Ouais.
Vous pouvez imaginer rien. Hein. On était vraiment bon. Vous ne connaissez rien. Rien. On n'avait même pas de vélo, rien du tout. Par contre, mon père, c'est-à-dire que le débarquement américain, ils sont arrivés en 1944, et la guerre a fini en 1945. Mais moi, j'étais en occupation en Allemagne, moi. Oui, j'ai fait 15 mois en Allemagne, en occupation, dans les casernes allemandes, les partout. Et, alors, je ne fais pas partie des combattants. Nous, c'était les FFA, Forces Françaises en Allemagne.
Et ça consiste en quoi c'était quoi? Moi, je suis un peu nul en histoire, mais c'était quoi les occupations en Allemagne?
C'est-à-dire que l'armée française, on était dans les casernes allemandes et le garage et tout leur terrain d'exercice, et on occupait tout. Mais de toute façon, on ne leur disait rien, ils ne nous disaient rien non plus. Non. C'était un moment à passer. Mais je suis content parce que j'ai vu des choses, comment se développer. J'ai vu des choses pendant mon service militaire que je n'aurais jamais vu. Ça m'a très instructif. Ne serait-ce que pour écrire, parce que pour se communiquer, il n'y a pas de téléphone. Si on voulait avoir des nouvelles de nos parents ou des amis, il fallait envoyer une lettre pour qu'ils te répondaient. Et puis, permission, pas question de s'en venir. Si on a une permission au bout de 8 mois. Oui.
Et quand vous dites que vous étiez sous-développé?
Ben parce qu'on n'avait rien, on ne connaissait rien. Beaucoup n'avaient jamais monté dans le train.
Ça a dû être un choc quand vous êtes parti d'ici pour aller en Allemagne.
Ben, c'est-à-dire que quand je suis parti, je ne savais pas où aller. Il fallait que je rejoigne la caserne des jardins en haut. Et je ne savais pas où aller. Hein. Si, à la caserne, il fallait rejoindre la caserne des jardins en haut. Et puis là-bas, quand on nous dit tous ceux qui rejoignent la caserne, c'est pour l'Allemagne. Madame, ça fut la vérité aussi parce qu'ils nous ont embarqué. Je ne suis même pas trop. Hein. Oh, peut-être ben, un après-midi. Madame, on ne passait pas par Paris, on fit le contourner Paris pour ne pas besoin de train, ni de prendre de métro, ni rien du tout. On arrivait à minuit. Non. Mesdames, là, ça faisait forcément drôle. Hein. Enfin, on s'y est habitué.
Quand vous êtes revenu après ce moment en occupation en Allemagne, vous aviez quel âge?
C'est-à-dire que j'ai fait 15 mois et je suis parti en 53, toute l'année 54 et début 55. Et on a eu 3 mois de permission libérale parce qu'en 54, Dien Bien Phu est tombé et toute l'armée française qui était en Indochine là-bas, fallait qu'ils revenaient en Allemagne. Alors nous, il fallait qu'on dégageait pour qu'ils prennent notre place. Ça nous arrange bien. Mais le problème, c'est que on fut libéré au mois d'avril, mais le 1er septembre, il fallut partir. Rappeler. Et je fus rappelé à Dinan. De Dinan, ils m'ont emmené à Nantes. Et puis, on attendait à Nantes, là. Ils nous disaient pas qu'on allait attendre en Algérie, ni rien du tout. Mais moi, j'ai eu un problème, j'avais mal dans le dos. J'avais des douleurs et tout ça. Je fais l'infirmerie. À l'infirmerie, ils me firent des massages, mais ça ne me faisait rien du tout. Alors, je suis deux ou trois fois. Après, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Et puis, il y avait justement à l'hôpital, il y avait une infirmière qui était revenue d'Indochine. Il me dit, c'est de la fatigue que vous avez. Il me dit. Ils me firent des piqûres intraveineuses de calcium. Ah ben, ça me repiquait, hein. Il n'y avait plus mal nulle part. Mais comme j'avais été hospitalisé, il fallait que je passe la commission de réforme. Et puis, réforme numéro 2 pour un an. Et un an après, ils me rappelirent pour me remettre au service armé. Mais comme mon service légal te fait, je n'avais pas à repartir. Et puis, c'est là qu'ils me foutirent réserviste dans la gendarmerie. Et en tant que réserviste dans la gendarmerie, j'avais une période de 8 jours à faire en 61. 6 ans après. Et je fus l'enfer aussi. Salut bien. Allez. Bon rendez-vous, hein. Enfin, bon. On est encore là.
Et donc, vous êtes rentré ici et vous avez continué à faire votre vie ici, à travailler. Vous avez...
Ah oui, oui.
Est-ce que vous êtes marié?
Oui. Je suis marié en 61, justement, hein, au mois de 31 mai 61. J'attendais que ma période de 8 jours là, dans l'armée était faite pour être libre.
Oui. Et vous avez trouvé une fille du coin?
Oui. Oui. Oui, oui, puis on était quand même plusieurs années ensemble, ça fait 4 ans, passé du 2 janvier qu'elle est décédée. Il était un peu plus jeune que moi, 4 ans de moins.
Elle était de Québriac?
Non, Saint-Dominique.
Ah. Vous êtes rencontrés au bal?
Oh non. Non, à l'époque on avait quand même des vélos là. Mais on allait à la Mi-Carême à Dinan en vélo. Et puis j'allais avec un copain. Tu fais tout de toi, on voyait souvent ensemble. Et puis c'est en revenant qu'on trouve ça, et avec un autre, et puis on te tourne les doigts. Là. On discutait, puis là, voilà.
Ça passe vite la vie? Est-ce que ça passe vite la vie?
Oui, oh oui. Voilà, oui. On a vu le temps passer. Je me suis mis à mon compte en 62, marié en 61, mon compte en 62, et j'arrêtais le 31 décembre 92. J'avais à peine j'avais pas 60 ans, il me manque 25 jours, comme je suis du 25 janvier. Mais enfin, bon, j'ai dit, j'arrête parce que j'avais deux hernies discales, et puis qui ne voulaient pas m'opérer, en plus. Alors, j'ai dit, j'arrête, c'est bon. Ma famille est élevée, avec un gorge.
Et votre travail de maçon, alors? Est-ce que vous pouvez nous en parler, de votre travail de maçon?
Ah, oui.
Que vous avez dû voir l'évolution des techniques?
Ah, non, oui, ah oui. Ah oui. Ah oui, parce que quand j'ai commencé à travailler avec mon père, lui, il ne faisait que de la maçonnerie en pierre. Le parpaing, ça n'existe pas. Il n'y a que la brique pleine, qu'il appelait ça, qu'il employait pour faire des tours, des rambages, des ouvertures, comme on voit là. Autrement, les briques plats creuses, là, ça n'existe pas. Et puis, bon, ben, quand ils ont sorti les parpaings, là, Ça y a été vite parce que. Et puis la pierre, les maisons, on est fait tout en pierre, intérieur et extérieur. Maintenant, il n'y a plus moyen parce que c'est trop cher. On a commencé à en faire tout en pierre, intérieur, extérieur. Après, on ne faisait que l'extérieur. Après, bon, il y en a qui montaient la cave en pierre et puis le reste en parpaing. Après, ils mettaient de la pierre autour des rambards, des ouvertures, les angles. Et puis, comme ça coûte tellement cher, c'est fini. Il n'y a plus besoin de se casser la tête pour la maçonnerie. J'ai encore mes outils, mes masses, mes marteaux de maçon, tout ça. Demande le prince, les maçons actuellement, bon, il y a encore quelqu'un qui font de la rénovation, mais les maisons, ils ont toutes été rénovées. Ah oui. Tandis que moi, je suis tombé au moment qu'il fallait toutes les rénover parce que toutes les maisons de campagne étaient toutes sur. Il n'y avait qu'une pièce unique pour toute la famille, qui était 4, 6 ou. Et ce fut de la terre battue, une grande cheminée. Une petite fenêtre et puis une porte qui avait pas mal de jours dessous. Tout le monde était logé là-dedans. Et ben, ça nous a donné du travail parce qu'il fallait déménager tout, creuser de 25 cm de profondeur, faire un rishon de pierre, un béton, et puis la cuisine, souvent on faisait une chape d'usure bien lissée, poudrée, et puis en. Où l'autre partie, c'était, on arrivait à faire deux chambres. Et bien là, on réserve plus bon pour mettre des lambournes du parquet. Et la cheminée, souvent, qu'on faisait par la même occasion. Chaque fois, on le changeait debout de la maison, parce que quand ça ne correspondait pas. Et puis autrement, madame, on faisait beaucoup de façades, des joints à la pierre, des enduits sur la terre, ou que c'était des murs de terre. Et puis des trottoirs aussi, des dallages. Et je travaillais aussi bien pour les cochons, parce que j'ai fait des porcheries à l'époque, pas comme maintenant. C'était pas comparable, aussi bien comme des étables.
Et ça se faisait comment les joints de pierre à l'époque? C'était du ciment? Vous utilisiez du ciment pour les joints de pierre?
Oui.
Ouais.
Oui, parce que là. La chaux, si on avait ce qu'on appelle ça la chaux grasse, mais ce n'était pas tellement solide. Non. Nous, c'était principalement de ciment, parce qu'en principe, c'était de la vieille maçonnerie. Alors donc, c'était souvent des murs montés à la terre, alors on faisait des joints au ciment pour consolider.
Bon bah super, et alors imaginez que cet enregistrement, donc là ça, on va archiver ça pour la mairie, pour les souvenirs, et imaginez que dans des générations il y ait des enfants qui tombent là-dessus, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ou de leur souhaiter, ou un conseil de sage?
C'est-à-dire que faut y réfléchir, parce que c'est une maigre époque, nous. Mais maintenant, il y a trop d'évolution. Alors, ça ne travaille pas assez. Il n'y a pas assez de pratique. Et c'est facile à comprendre parce que les ménages qui ont des enfants, la plupart, c'est dans ville, dans des lotissements. Ils n'ont rien à leur faire faire. Tandis que nous, en campagne, on avait toujours quelque chose à faire, le jardin, etc.